Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, un petit mini-sujet, puis un sujet principal, André Fortin, député libéral de Pontiac, le seul qui n'est pas en direct de l'île au génie, a remis à sa place Christian Dubé durant l'étude des crédits en essayant de se prendre un rendez-vous avec son médecin de famille live en commission parlementaire. Jacinthe, qui est pogné avec son GMF, j'ai l'impression que ça l'a beaucoup touché. Et également, on veut parler un rapport qui est sorti par rapport à McKinsey. On comprend en fait, on a la confirmation qu'on a depuis le début, c'est que le gouvernement fédéral a vraiment un peu contourné les règles et les a favorisés pour la donation de contrats du gouvernement. Donc, on en parle ce matin en toute liberté. Salut Jacinthe.
Allô Joey.
Ouais. Andrew Fortin. Moi tout, j'ai vu ça. En fait, c'est tout nouveau parce que pour ceux qu'on ne savent pas, on enregistre en après-midi le mardi avec Jacinthe et ça a popé il y a à peine une ou deux heures. Ça a fait la une de TVA. André, notre cher André Fortin, puisque présentement, c'est l'étude des crédits. Parce que bien sûr, vous le savez, le budget a été présenté une couple de semaines. Fait que durant les mois qui suivent, il y a tout le temps une étude approfondie de chaque point et détails du dit budget. Et là, on parle bien sûr du budget de la santé et Christian Dubé est en commission parlementaire. Et notre cher député André Fortin, je trouve que, pour le dire, ça il faut donner à César ce qui est à César, il faut donner aux libéraux quand il en passe une bonne, mais il a fait un bon saut d'éloquence, si je peux dire, en essayant de se commander un médecin via le fameux guichet d'accès, la plateforme que la CAQ essaie de présenter en fait, aux gens comme alternative à avoir un rendez-vous pour avoir de l'accès. Ben, ça donnait ceci.
Et je fais rechercher. Et là, c'est un exercice risqué. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je ne peux pas confirmer exactement ce que ça va donner. Alors voilà, aucun rendez-vous répondant à vos critères de recherche n'est disponible pour le moment. Alors ça, c'est pour moi, à partir d'aujourd'hui, en avant-midi, en après-midi, en soirée, pour un rendez-vous pour un suivi avec mon médecin de famille. C'est pas anormal ce qui vient de se passer là, M. le ministre. Ça arrive régulièrement.
Ça arrive régulièrement.
Oui, le système est dans chenoute.
Ah. Et puis ça, là, dans cet exercice-là, il nous dit qu'il n'est pas capable d'avoir un rendez-vous avec son médecin de famille. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y en a un médecin de famille.
Ah oui.
Imaginez les 2 millions de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Imaginez ceux qui n'en ont pas puis qui doivent passer par le système, soit téléphonique, soit le système en ligne, essayer de se caser à quelque part. Puis imaginez que, bon, si c'est juste pour une otite ou pour un problème ponctuel, aller voir un médecin qui n'est pas ton médecin de famille, ça va. Mais imaginons qu'on commence à avoir un problème un peu plus chronique de santé. Imaginons que je desserre mal la poitrine, on dirait que mon cœur bat plus vite, j'ai des faiblesses. On sent là, qu'il se passe quelque chose au niveau du cœur, par exemple. Donc là, c'est plus ponctuel. Je vais probablement avoir besoin de plusieurs examens de santé. Je vais probablement avoir besoin de suivi. Je vais probablement avoir besoin de référence vers un médecin spécialiste qui, lui, va envoyer les résultats. Puis tous les résultats d'analyse de laboratoire vont être envoyés à... C'est qui votre médecin de famille, madame? Ah, j'en ai pas, mais j'ai vu docteur un tel à telle clinique parce que j'ai réussi à me faufiler.
Il y a 8 ans.
j'ai réussi à avoir un rendez-vous dans une clinique quelconque, mais qui n'a pas mon dossier de façon générale. Puis, donc, oui, il y a un dossier, une espèce de dossier informatisé qui permet de centraliser les analyses de laboratoire, mais il reste que c'est encore plus difficile d'avoir accès à un médecin pour ceux qui n'en ont pas de médecin de famille. Donc, là, André Fortin faisait une belle démonstration que le système ne fonctionne pas bien. Puis, la Coalition Avenir Québec, Christian Dubé, se targue beaucoup d'avoir amélioré et d'avoir fait beaucoup d'avancées dans le système de santé, mais dans les faits, de l'époque de Gaétan Barrette, à l'époque d'aujourd'hui, il n'y a pas plus de Québécois qui ont accès à un médecin de famille, qui ont un médecin de famille, qui sont attitrés à un médecin de famille. Il n'y en a pas plus. Il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là.
Ah non, c'est statu quo. On est loin d'un médecin de famille pour chaque Québécois. Là. C'est...
Non. Puis, on n'est pas capable d'avoir un rendez-vous dans une clinique médicale. Bon, ça dépend des régions, vous allez dire. Là. Il y a des gens qui écrivaient aujourd'hui, je voyais que dans certaines régions, ça va bien, ça va vite. Tant mieux pour ces gens-là, mais il reste que ça crée une iniquité parce que tout le monde paie la même portion d'impôts. Tout le monde est imposé de la même manière, mais pour avoir accès aux mêmes services, les routes, les ponts, les infrastructures, les écoles et les hôpitaux et les soins de santé. Mais quand, au bout du compte, on est imposé et taxé de la même manière, et que finalement, ben, il y a un pourcentage de la population québécoise, donc à peu près 20 % de la population québécoise qui n'a pas de médecin de famille, ou celles qui ont la proportion qui a accès à un médecin de famille, finalement, n'a pas accès dans des délais acceptables, comme en fait la démonstration André Fortin. Ben, c'est franchement questionnable. Fait que bravo, bravo à André Fortin d'avoir fait cette démonstration-là. Je trouve que c'est un beau coup de génie, puis ça a fonctionné. Ça fait les manchettes aujourd'hui, dans cette étude des crédits, qui est quand même un exercice souvent long et périlleux, parce que les ministres doivent répondre aux questions des oppositions sur, finalement, l'ensemble des crédits budgétaires qui sont affectés à leur ministère. Puis c'est des exercices souvent lourds, fastidieux, et de se faire finalement questionner de cette façon-là. C'est percutant, puis ça sort de la monotonie de ces exercices-là. Ça crée une trace dans l'imaginaire, puis ça permet aux médias de vulgariser puis d'en parler rapidement. Donc, je suis vraiment... moi, je trouve qu'il faut souligner les bons coups, peu importe de quel parti ils viennent. Je suis pas du genre à taper sa tête d'un seul parti. Alors, bravo Parti libéral d'avoir eu cette façon de présenter les choses bien simple, puis bien, c'était risqué aussi, parce que comme il dit, il aurait pu aussi obtenir un rendez-vous, puis son plan fonctionnait plus. Mais il y avait sûrement assez de citoyens qui lui avaient porté à son attention le fait que ça fonctionnait rarement ou c'était très souvent problématique le système pour qu'il prenne la chance de faire la démonstration.
Mais là, voyons, Jacinthe, la santé est sous-financée, tout le monde sait ça, voyons donc. Il manque tellement d'argent dans le système, voyons donc. Il faut juste rajouter une couple de milliards de plus, puis vous allez voir, ça va marcher. C'est-tu pas extraordinaire? Il y a quelques semaines, j'ai répondu à... J'ai fait une réponse sur Twitter, un post de Gabriel Nadeau-Dubois qui parlait du privé en santé, à quel point, c'est bien sûr, c'est le démon, puis il faut empêcher ça. Je vais essayer de retrouver ma réponse, parce qu'il y a des gens qui m'ont comme répondu, puis m'ont envoyé un article qui datait de, on va trouver ici, d'avril 2021, marqué « La santé publique sous-financée depuis plus de 15 ans au Québec ». La santé publique?
Ouais.
C'est pas la même chose.
Ben non.
C'est sûr que la santé publique a eu beaucoup de pouvoir, parce qu'on se dit, oh là, il est sous-financé, puis on en a besoin durant la pandémie, mais là, il y a pas mal de retour à dire aux gens de faire attention à la grippe dans les écoles, puis protégez-vous, lavez-vous les mains. Là. On est pas mal rendu, je peux comprendre que c'est pas là qu'il y a le plus grand nombre de financements. Puis la réponse, je vais la retrouver ici. J'avais refait le repost.
De toute façon, quand on parle de santé publique, hein, on parle de tous les programmes de cessation du tabagisme, par exemple. Ça, c'est de la santé publique. Les programmes de vaccination, de promotion de la vaccination, les programmes de manger. À un moment donné, il y avait une époque là, où on nous disait là, qu'il fallait manger 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. Donc, toutes ces campagnes de promotion-là, c'est des campagnes qui sont dans le département de la santé publique. Et c'est vrai que
C'est correct qu'il existe, là.
Oui, oui. Puis c'est vrai qu'on ne met pas beaucoup d'argent en santé publique. Et dans la santé publique, il y a un volet promotion de la santé. Et c'est vrai que pour chaque dollar qu'on investit en promotion de la santé, les meilleurs systèmes de santé dans le monde, on fait la démonstration que quand on investit plus en promotion de la santé, on a une population plus en santé et ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher mettre un dollar dans la promotion de la santé que mettre un dollar dans le curatif. Cela étant dit, il faut qu'on ait un système de santé publique qui soit aussi performant. Et en ce sens-là, ben, il faut s'intéresser aux causes des maladies chroniques, il faut s'intéresser vraiment à ce qui cause le diabète, le cholestérol, l'hypertension, et il faut vraiment avoir des programmes qui sont axés là-dessus. C'est ce que fait pendant des années le programme d'arrêt du tabagisme, c'est de viser la réduction de certaines maladies chroniques. Mais oui, je te laisse, j'imagine que tu as trouvé ton...
Oui, ben c'est ça. C'est drôle parce que tu parles de... C'est drôle que tu amènes le point de la santé parce que j'étais curieux d'entendre, peut-être que tu ne l'as pas entendu, mais le maire de Québec, Bruno Marchand, a découvert que la ville de Québec pourrait affecter la santé de ses citoyens en parlant des villes sans voiture, puis dans les quartiers que les gens ne peuvent uniquement marcher ou prendre du vélo, ben ça force les gens à être plus actifs. Donc, il a dit, ça je paraphrase ici, semble-t-il que grâce à l'administration de la ville de Québec, il y a des citoyens, en les forçant à ne pas prendre leur char, pourront vivre 20 ans de plus. Et oui,
j'ai bien entendu, ça m'a fait bien rire parce que, vous savez, j'ai siégé au conseil d'administration de l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, c'est un domaine que j'ai, dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années, la santé publique, et ça m'a fait bien rire parce qu'il est vrai que si on a des villes, il est vrai que les villes peuvent avoir une influence, une incidence sur la santé d'une population, mais il est complètement exagéré de dire qu'on pourrait vivre 20 ans de plus si les villes avaient des budgets de santé publique, par exemple. C'était une image un peu trop forte, un peu trop surestimée d'augmenter la longévité de 20 ans. L'autre chose, c'est que ça va bien au-delà d'aménager des pistes cyclables puis d'aménager des corridors de marche ou quoi que ce soit. Là. Et il faut, c'est un ensemble de facteurs qui doit être pris en compte. Puis j'oserais avancer qu'une ville qui brûle ses déchets dans un incinérateur en plein quartier, densément peuplé, et dont les contaminants qui sont brûlés et qui sont à la sortie de la cheminée ne sont même pas mesurés en continu, parce que c'est ça là, à Québec. Nos contaminants qui sortent de notre incinérateur à Québec, de nos cheminées, ne sont pas mesurés de façon continue. Donc, on est incapable de savoir en temps réel qu'est-ce qui est jeté dans notre atmosphère, qui est respiré dans cette zone-là très densément peuplé de Québec. Alors franchement, il y a des actions importantes qu'on devrait prendre pour préserver la santé des citoyens. Et à ce chapitre, ben, ça va bien au-delà d'aménager quelques pistes cyclables.
Et aussi, donc, ça revient aussi à la décision des citoyens. Là. C'est rendu ouais. que le gouvernement municipal ou whatever, n'importe quel palier, va décider quand est-ce que tu marches, quand est-ce que tu prends du vélo, qu'est-ce que tu manges, quand est-ce que tu étiquettes ton chat, que tu ne fais pas ton foyer au poids de la voix. Ouais. Non, il y a des conspirations. Il n'y a pas d'État profond, il n'y a pas je dirais pas de complot, mais en gros, non, l'État n'est pas si dans nos vies que ça, c'est vous qui imaginez ça, c'est des cas de figure. Ah oui, bien évidemment. On va venir au point. Bien évidemment, tweet de GND du 3 avril dernier. C'est par rapport à un article. Québec solidaire réclame un frein au privé en santé. Les Québécois se font avoir. Ils paient des impôts plus qu'ailleurs et s'attendent en retour à se faire soigner gratuitement. Et ça n'arrive pas. Ils doivent débourser des centaines de dollars pour aller au privé. Il faut que ça cesse. Et moi, j'ai répondu. J'ai même retweeté ma réponse, mais j'ai fait la même. Et j'ai marqué « Et ta solution n'est pas de réformer ou simplement d'enquêter sur pourquoi le système public n'est pas plus capable d'offrir des soins à ses citoyens dans des délais raisonnables. Non, ta solution est d'interdire son vis-à-vis qui est devenu le seul à soigner les Québécois de manière moderne, productive et efficace. Gabriel, les Québécois s'en contre crise de qui les soigne. Ils veulent juste que l'universalité des soins soit respectée. De ne pas attendre 3 ans pour être opéré au genou et ne pas souffrir le martyre sur une liste d'attente. Inspire-toi donc des modèles des nations scandinaves sociaux-démocrates de gauche qui offrent la pratique mixte en santé en permettant une saine compétition entre le public et le privé, tout en garantissant l'assurance et l'universalité des soins au peuple. Votre idéologie aveugle ne soignera personne de plus, au contraire, elle causera la mort de plusieurs dans l'avenir. Sans vouloir me flatter mon propre poil, là, je pense que ça résume pas mal le tout. Là. Puis c'est
vraiment
idéologique, parce que même quelqu'un qui souhaite vraiment que les gens soient soignés de manière gratuite, puis je le souhaite aussi, on veut pas... On dit « Ah, mais là, vous voulez créer un système à deux vitesses? » Il est là, le système à deux vitesses, on l'a présentement, les gens payent en double, puis ils sont tellement désespérés de payer puis de ne pas recevoir des services qu'ils repayent encore le privé. Le privé, c'est pas le méchant. C'est à la limite une chance qui est là pour sauver la face à bien des gens parce que la santé moyenne des Québécois serait encore pire qu'on est là, puis c'est pas à cause du public que ça irait mieux. Là.
Il y a un médecin qui faisait une publication hier sur X qui mentionnait qu'il avait prescrit une IRM à sa patiente du cerveau, une IRM du cerveau à sa patiente, et il lui avait prescrit, et sur la prescription, il avait indiqué que la patiente devait avoir son IRM dans moins de 30 jours. Et la patiente a attendu 5 mois. Au bout de 5 mois, elle n'avait toujours pas d'appel de l'hôpital. Elle a appelé l'hôpital. L'hôpital a dit... elle dit, mais mon médecin a écrit qu'il fallait que je sois vue dans moins de 30 jours. Ça fait 5 mois que j'attends. Et l'hôpital a répondu, aurait fallu que votre médecin inscrive urgent sur la prescription. Et le médecin a publié ça hier sur X. Et il a terminé ça comme ça, là, parce que ça démontre l'aberration. Là, parce qu'il n'a pas écrit le mot « urgent », ben, il était sur la pile des clients réguliers ou des patients réguliers. Pourtant, c'était écrit qu'il fallait qu'elle soit vue en moins de 30 jours. Le système, il est brisé partout, partout, partout. C'est un petit exemple, mais si on additionne l'ensemble des exemples de chaque patient, on est à mesure, on n'est même pas en mesure de dire le problème, il est là. Non, ils sont là, 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 là. Il y en a partout, tout au long de la chaîne de production de valeur, parce que c'est un service, la santé, puis ça, il y a une chaîne de production d'un service, mais dans toute cette chaîne de production de valeur-là, de service-là, bien, il y a des manquements, il y a des lacunes, il y a des aberrations. Que le privé, lui, laisse pas se rendre à ces dérapages-là. Parce que quand on dit pourquoi qu'au privé, ça va bien, bien c'est parce qu'au privé, il y a un objectif de rentabiliser la clinique, de rentabiliser le service, parce que c'est une business. Alors, pour être rentable, on n'a pas le choix d'éliminer les gaspillages au fur et à mesure qu'ils se font. Et dans une chaîne de production de valeur ou d'un bien, qu'on construise un objet ou qu'on livre des services, il y a une chaîne d'actions humaines qui sont faites par les travailleurs pour en arriver à produire le bien ou rendre le service. Et dans cette chaîne de production-là, bien, quand on veut être une entreprise rentable, on élimine les gaspillages de temps, les gaspillages financiers qu'il y a dans notre chaîne pour s'assurer que ce soit optimisé. Et ça se fait pas dans le public. Il y a eu plein d'initiatives pour rendre les services plus lean. Là, il y a eu beaucoup. Moi-même, j'ai été formée comme gestionnaire là dans un hôpital. Ils nous formaient tous les gestionnaires pour adopter ce point de vue-là lean. Là. Bon, puis c'était la grosse mode, la méthode Toyota. Puis on a tous été formés à ça. Mais malgré les bonnes volontés d'implanter le mouvement lean, bien, le lean, c'est jamais fait. Parce que pourquoi ça se fait du lean? Comment ça se réussit? C'est que c'est les employés sur le terrain qui disent « Ça, pourquoi qu'on fait ça de même? Ça n'a pas de bon sens. Les clients, ils nous passent longtemps à nous revenir avec leurs prescriptions. » C'est les gens proches des patients qui les voient, les gaspillages de temps, les gaspillages d'argent. Mais dans la hiérarchie du réseau de la santé, bien, plus t'es haut, plus tu te penses bien bon, puis t'es bien payé, puis t'es grassement payé. Je vous garantis, les salaires sont très bien, très, très bien dans le réseau de la santé. On est grassement payé, et là, bien, on n'écoute pas la base, parce que la base, on la regarde de haut. Puis je sais que je ne vais pas me faire des amis là, en ce moment, là, mais j'ai passé dans assez d'établissements de la santé, et j'ai été dans toutes les couches de la hiérarchie, et je vous garantis que plus tu montes, plus... les oreilles se ferment, les yeux se ferment, on ne veut pas être à l'écoute des gens sur le terrain, fait qu'il s'en fait pas du vrai lean. On se fait former, on forme les gestionnaires, puis il s'en fait pas.
Formaté, je dirais même plus. C'est ouais. Quasiment programmé. Ah non, tu as absolument raison. C'est comme si tu es en haut de ta tour, puis tu n'arrêtes pas de lancer des vidanges par-dessus ta balustrade, puis là, le monde en bas, voyons, il y a des vidanges qui tombent du ciel, puis ça sent mauvais, puis là, tu montes en haut, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on fait en bas? Ouais. Il n'y a pas de problème. En haut de ma tour, ça ne sent pas mauvais pantoute. Ça va numéro un, tu sais. Ouais. C'est comme ce que j'ai dit, parce qu'il y a eu des commentaires à mon post disant « Ah non, moi, je ne m'en crève pas. Tu sais, faut qu'on cesse la marchandisation des soins de santé puis réinvestir dans les soins publics comme si on ne le ferait pas déjà. » Et moi, j'ai répondu « Si tu penses vraiment qu'au Québec, en 2024, que la solution au système de santé publique, c'est plus d'argent, s'il te plaît, va consulter.
Ouais. Oh, non.
PS, 61,9 milliards de dollars par année, 1,190 milliards par semaine, 41,9% du budget complet de la province. I rest my case. » Sérieusement, là, qu'est-ce que vous voulez de plus? Là? Le cash vous saute par les oreilles. Là.
Ouais. Oh, et puis, tu sais, je me
suis comme dans l'annonce, là, si ça existait, on le saurait. Si ça existerait, on l'aurait. Ben, je pense que c'est un peu ça. Là.
Oui, puis je me fais encore mettre au défi. Là, souvent dans les médias, quand je parle de couper le gaspillage, on me regarde de façon incrédule, comme si je dis des grossièretés. Là, mais oui, je vous le dis qu'il y en a du gaspillage. Par exemple, là, dans le réseau de la santé notamment, là, on passe notre temps à entendre qu'il manque d'agentes administratives, puis ça prendrait plus d'agentes administratives, puis on s'arrache les agentes administratives. Mais à un moment donné... Moi, je l'ai dit souvent, là, je ne me faisais pas tellement toujours apprécier, mais je en fait, souvent par en arrière, je recevais beaucoup de textos d'appui de cadres qui disaient « Ah, une chance que tu as posé cette question-là, ton commentaire était pertinent. » Mais les gens en façade restent dociles et restent dans le droit chemin de la direction générale. Mais À un moment donné, il faut regarder aussi qu'est-ce qu'ils font, nos agentes administratives. Est-ce qu'il y a moyen de les libérer de tâches? Est-ce qu'il y a moyen de simplifier leur travail pour qu'ils puissent en faire plus? Plutôt que de dire qu'il faut ajouter des agentes administratives, il faut peut-être les libérer de certaines tâches qu'elles font qui ne sont pas nécessairement à valeur ajoutée ou qui sont nécessairement utiles ou créatrices de richesses dans le système. Là, mais ça, c'est un langage qui... Ça prend de l'argent parce qu'il faut embaucher plus de monde. Ça prend de l'argent, il faut embaucher plus de monde. Comme et c'est la, même dit, chose avec, c'est la même chose avec certaines de nos professionnels, des travailleurs sociaux, des infirmières, qui font des tâches de façon non optimisée et qui ont un caseload qu'on appelle, mais qui ont une charge de cas, qui ont, par exemple, des gens qui font des soins à domicile ou des gens, des travailleurs sociaux qui se déplacent à domicile. Elles ont des charges de cas de tant de clients ou de tant de patients. Et puis, finalement, elles pourraient en voir plus si elles n'étaient pas contraintes dans une espèce de carcan qui les oblige à retourner au bureau, remplir le petit formulaire, puis remplir le rapport sur ce qu'elles viennent de faire chez le client X, puis chez le client Y.
Remplir le rapport bureau, du puis... formulaire du rapport.
C'est ça.
Mais dire comme tu l'as déjà dit, Jacinthe, hein, ça nous prend des fonctionnaires pour faire fonctionner le fonctionnement.
Oui.
Ça, je me rappellerai toujours à quel point ça me restait dans la tête. Ah, absolument. Deuxième sujet, puis écoute, on va quand même en parler avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui. Je vais partager ça à l'écran, article de Radio-Canada.
Oui, c'est un article qui a été écrit par Romain Chouet puis Thomas Gerbet, nos deux journalistes qui continuent de se salir les bottes de travail en faisant leur travail de journaliste. Deux journalistes qui sont fort appréciés de nos auditeurs, j'en suis convaincue. Donc, forte impression de favoritisme d'Ottawa envers McKinsey. Conclut un rapport. C'est un rapport qui a été déposé lundi cette semaine par l'Ombudsman fédéral aux approvisionnements, donc du bureau de l'Ombudsman de l'approvisionnement, donc au fédéral, qui constate que les octrois de contrats donnent une forte impression de favoritisme à l'égard de la firme McKinsey, ce qui constitue une menace grave à l'équité. Donc, je suis allée consulter le rapport dont il est question dans cet article-là. Ce que ça dit, c'est que l'Ombudsman Alexander... J'espère que je ne massacrerai pas son nom de famille.
Ovechkin?
Jeglik. C'est pas compliqué, mais je pourrais quand même être en train de le massacrer. Alors, toutes mes excuses si je le fais. A examiné 10 ministères et agences fédérales dans le but de déterminer si les contrats attribués à McKinsey ces dernières années avait été établi dans le respect des règles et des lois. Donc, c'est le gouvernement Trudeau qui avait mandaté l'organisme de surveillance de faire la lumière sur la hausse des montants versés à McKinsey suite à une série d'articles qui avaient été écrits notamment par Thomas Gerbet justement sur les irrégularités qui semblaient être observées à l'égard de la firme McKinsey.
En fait, ça confirme ce que tout le monde se doute depuis quasiment un an et demi. Là. C'est que là, on l'a au moins sur papier, puis un rapport professionnel a vraiment confirmé nos dires. Puis que c'est ça, c'est qu'il y a eu du copinage à travers de tout ça, puis il y a eu des avantages et qu'il y a eu du contournement de règles pour cette compagnie-là. Ce qui rajoute un autre scandale sur l'énorme pile que le gouvernement Trudeau fédéral a sur son dos. C'est pas à dire, parce que c'est un peu comme dans tout, hein. T'sais, à force d'en avoir tout le temps, puis de voir de quoi de récurrent, puis là, je parle de scandale ici, c'est rendu qu'ils perdent de leur pouvoir. T'sais, un gouvernement qui serait impeccable, puis qui aurait un méga scandale ou deux dans sa carrière, on s'en souviendrait, le scandale des commandites, puis des sites de ça. Mais là, c'est quasiment pas toutes les semaines, vous comprenez ce que je veux dire, il y en a tellement que c'est rendu que, un autre. T'sais, on s'en doute pas, là. C'est OK, c'est business as usual, quasiment.
Oui. Et ça dit que l'influence de McKinsey a été, bien sûr, au cœur d'une controverse politique, puisque la firme a longtemps été dirigée par Dominic Barton, proche de Justin Trudeau, avant qu'il ne soit nommé ambassadeur du Canada en Chine par le premier ministre. Et Dominic Barton a également cofondé le groupe de pression intitulé « Initiative du siècle » qui promeut une immigration massive au Canada. Même si Ottawa a mis en place des cibles d'immigration allant dans le sens de l'initiative du siècle, le gouvernement Trudeau s'est également défendu de partager ce modèle. Donc, tout est dans tout.
Ouais. Écoute, je suis vraiment surpris, bien évidemment, aucunement. Là. Mais est-ce qu'au moins, parce que c'est ça, là, on a le rapport, mais là, il va falloir agir, bien évidemment. Là. Autant qu'on peut, on peut dire qu'on est plus du côté idéologique de Pierre Poilievre, mais bien évidemment que si d'ici la prochaine élection fédérale, il rentre au pouvoir, il va falloir qu'il fasse les modifications ou qu'il mette des nouvelles, je dirais pas des barrières, mais des nouvelles mesures en place pour que ce genre de truc-là n'arrive plus. Là, vous allez partir à rire, Joey, voyons donc, les conservateurs, ils vont peut-être moins pire que Trudeau, mais bien sûr, il va sûrement avoir du favoritisme, puis du lobbyisme, puis je le sais, on n'est pas dans un monde parfait. Mais au moins, quelque chose, parce que, étrangement, sans vouloir passer du coq à l'âne, Jacinthe, mais ce sort de copinage-là, ça me fait un peu penser à une certaine usine de batterie qu'on essaie de construire dans le coin de McMasterville. Et le fait qu'on n'arrête pas de parler, qu'on soit d'accord ou pas, là, c'est pas ça le point. Tu sais, qu'on parle que là, on a contourné le BAP, puis il y a certaines, justement, les politiques des terrains environnementaux, si on s'en est contrefoutu alors que le reste... Tu sais, on a vraiment mis ça sur le fast track, comme on dit en bon québécois, en contournant même... Il y avait eu des articles, je crois, dans les dernières semaines de fonctionnaires qui travaillaient au ministère de l'Environnement du Québec qui disaient que, écoutez, on nous a passé par-dessus à la tête sans nous consulter, puis il y a vraiment eu une question de deal de coin de table, si je peux appeler ça comme ça, là, que ça a passé ultra rapidement. Puis, tu sais, je peux comprendre aussi, comme on dit, aussi qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Je peux comprendre que tu es vraiment content d'une idée, tu te dis... Si on le fait pas maintenant, puis on laisse la bureaucratie faire son œuvre, ça va tuer l'idée dans l'œuf, puis ça va être contre-productif. Je comprends qu'on n'est pas dans un monde parfait où c'est que tout, on pourrait tout faire. Mais là, c'est que c'est ça. C'est que d'un, ça encourage à le faire pour plein d'autres sujets, puis aussi, tu te dis, ben là, la limite est rendue où, là? Parce que là, on ne peut pas faire du deux pas de mesure que quand c'est nous autres qui le dit, ça passe en première vitesse, puis tout le reste passe en trois quarts de vitesse, là. C'est pas même que ça marche, là.
Non, puis ce que ça... Ton parallèle est intéressant avec l'usine de batterie, parce que justement, si on se met à... d'ailleurs, attends, j'ai eu... Ça se bouscule dans ma tête, il y a trop de choses. Aujourd'hui, je lisais... que Pierre Fitzgibbon a dit que c'était la seule usine de batterie, finalement, que finalement, il fallait diversifier notre portefeuille d'investissement puis que ça serait la seule usine de batterie. Alors, c'est encore plus questionnable. Ça, ben moi, je trouve ça pas questionnable qu'on arrête de donner des milliards aux entreprises pour qu'elles viennent faire des usines de batterie au Québec. Là. Je suis d'accord qu'on arrête d'investir des milliards dans des entreprises étrangères qui viennent finalement faire des usines de batterie ici, mais c'est quand même encore plus questionnant de savoir qu'on a changé les règles pour faire venir une entreprise qui, quelques mois plus tard, on apprend que ça va être la seule. Donc, sur quels critères on a choisi cette entreprise-là plutôt qu'une autre? Est-ce qu'on a choisi l'entreprise qui avait les meilleures, les avenues les plus prometteuses en termes de développement de batteries du futur? Parce que si c'est la seule, moi, si c'est la seule, je veux que ça soit la meilleure. Je veux que ça soit dans le top 3. Je veux que ça soit la meilleure ou dans le top 3 des usines qui ont l'avenir le plus prometteur en termes de développement technologique d'une batterie du futur. Et... À mon sens, je ne suis pas certaine qu'on a la meilleure. C'est les batteries solides, le futur. En termes de batteries, là, c'est les batteries à combustible et les batteries solides. Alors aujourd'hui, on apprenait que finalement, ça sera la seule entreprise qui va s'installer au Québec pour fabriquer des batteries. Alors, on a contourné des règles ou on a aménagé des règles pour favoriser l'installation de cette entreprise-là. Est-ce qu'on savait à ce moment-là que ce serait la seule qui viendrait s'installer ici puis qu'on ne permettrait pas d'autres installations d'usines de batteries? On ne permettra pas la saine concurrence entre différentes entreprises?
Moi, je suis zéro surpris. Moi, ça m'a fait rire, cette nouvelle-là. Finalement, il n'y a personne d'autre qui va venir, j'espère, parce que autant que personnellement, c'est ça, comme on a parlé souvent dans le podcast aussi, que justement, comme tu dis, la technologie, c'est pas nécessairement la plus up-to-date, puis c'est beaucoup poussé... pour suivre un narratif, puis ça a l'air un peu louche la manière qu'ils ont choisi l'entreprise internationale, puis ils ont mis foutrement de l'argent là-dedans. Mais là, après le backlash médiatique qu'il y a eu de ça, puis que là, les manifestants Greenpeace, puis les pics d'acier dans les arbres sur le terrain de Nordvolt, puis je suis aucunement surpris qu'il n'y a pas d'autres entreprises extérieures qui ont le goût de venir ici pour mettre des batteries, là. Oubliez ça, là. Ils voient ce qui se passe avec Nordvolt. L'usine n'est même pas... Ils n'ont même pas créé une seule batterie encore. L'usine n'est même pas commencé à être construite. Le salage n'est même pas fait. Puis regardez tout ce qui se passe. C'est zéro. Au contraire, ça fait effet négatif. Ça fait fuir l'investissement étranger, encore plus les gens qui veulent s'investir là-dedans. Fait que c'est 1 plus 1 égale 2 dans ma tête, là. Puis regarde, au moins, il y a eu la... C'est un peu, mais regarde, il le dira jamais, mais c'est un peu... Je pense que cette déclaration-là, c'est un peu une déclaration d'échec de la part de Fitzgibbon, sans le dire, si on lit entre les lignes. Reste à voir, bien sûr, parce que, bien évidemment, peu importe la quantité d'écologistes qui vont s'attacher aux arbres, l'usine, elle va se construire pareil. Là. Je pense pas qu'on va, ça, à moins d'un rebout, je pense pas que le gouvernement irait jusque-là, mais je pense pas qu'il y aura un arrêt total puis une cancellation du contrat. Elle va se construire pareil. L'usine, on va l'avoir à McMasterville pareil, mais c'est ça, l'engouement, ou du moins la vision d'avenir et le côté moderne de ce projet-là est complètement dans ma tête capote, là, du moins aux yeux de beaucoup de personnes. Là.
Mais ils n'appellent pas ça la vallée de la batterie, cette zone d'innovation-là. Là. Comment tu peux avoir une vallée de la batterie avec une usine de batterie et une entreprise de batterie? La vallée de la batterie, on a une entreprise qui fait des batteries.
Ça, excusez-moi, là, je suis désolé, là. Il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas depuis que je fais ces déclarations, mais ça, c'est Domien. Là. Je suis désolé, là. Tu sais, l'ordre de la vallée de la. Tu sais, Silicon Valley et Silicon Valley, puis c'est devenu une même parce que justement, il y a eu une progression, mais c'est pas à partir de la première usine qui commençait la piste.
On ne l'a pas nommé en commençant, là.
C'est comme le mérite quand t'es leader, là, tu sais, ça me rappelle une citation de la série Kaamelott. Ils disent, on devient pas chef parce qu'on le mérite, on devient chef par concours de circonstances, on le mérite après. Fait que c'est un peu le même principe, tu sais, un endroit, question, porte son nom suite aux actions qu'il y a, pas avant. Tu peux pas appeler une région la vallée de la batterie alors qu'il n'y a même pas une Sibonacq de batterie qui a été créée dans la dite vallée. Tu sais, c'est un peu mettre la charrette devant les bœufs, là.
Ben, je vais m'acheter un terrain dans le comté de Portneuf, puis je vais commencer à planter une dizaine de vignes. Je vais appeler ça le vignoble! Je vais appeler ça mon vignoble.
Ben, tu pourrais faire quelque chose avec la biothermie que tu parlais de... Je cherche la biothermie, je cherche le nom officiel, là. C'est-tu la géothermie...
Que t'avais parlé oui, la biomasse.
La biomasse.
Ben oui.
C'est ça. Tu pourrais faire une région, c'est la vallée de la biomasse.
Oui.
Ah, oh, c'est quelque chose, pareil. Écoute, je sais pas si tu avais un dernier mot final également.
Je vais juste préciser là, qu'est-ce qui a été trouvé, là, mais les observations qui ont été faites là, sont divisées en 4 points. Donc, il y a eu des changements de stratégie d'approvisionnement pour permettre la participation de McKinsey. Il y a eu des manquements non approuvés aux méthodes d'approvisionnement obligatoires pour attribuer des contrats à McKinsey. Il n'y a eu aucune estimation des coûts établis par les ministères avant d'entamer des discussions avec McKinsey. Et la réévaluation indue des offres de manière à ce que McKinsey soit finalement le seul soumissionnaire conforme et que l'entreprise obtienne le contrat.
C'était deux personnes en plus. C'est-tu quoi? C'est 2, 3, 4 personnes? En tout cas, c'est un groupe très réduit, cette dite compagnie-là, qui vivait dans un genre de cottage en Ontario, dans un sous-sol.
Non, ça, c'est pas McKinsey, ça.
T'as raison.
Ça, c'est les gens d'Arrivcam.
T'as bien raison.
Ouais.
T'as bien raison, je mélange les deux.
Non, McKinsey, c'est gros. Ils sont partout dans le monde.
Il y en a tellement de scandales que c'est rendu, je les mélange tellement, il y a des histoires, ça n'a juste plus d'allure. Oh, Seigneur. En tout cas, c'est... On n'en finira plus.
Ce rapport-là est quand même sorti la semaine ou la veille du budget fédéral. Donc, ça va être éclipsé dans le temps de le dire, cette histoire-là, parce qu'on va se concentrer sur le budget fédéral puis le pont de l'île d'Orléans. Donc, je ne suis pas certaine que ça va prendre grande ampleur, mais ça confirme tout de même les doutes et les perceptions qu'il y avait à l'époque. Parce que c'est depuis 2011 là, que les contrats sont attribués à McKinsey, mais c'est depuis 2019 que ça s'est largement intensifié, l'attribution des contrats à cette firme-là. Voilà.
Ça fait pas... en tout cas, ça donne raison à plusieurs personnes qui avaient des suspicions par rapport à cette compagnie de relations publiques-là. Puis Claire Samson avait l'air folle un peu durant les rares questions qu'elle pouvait poser à la SNAT à Geneviève, la filibuster Guilbeault, mais finalement, c'est ça. C'est drôle, hein? C'est ça qui souvent qui fait plus frustrer les gens de plus de notre côté de l'échiquier politique, puis je vais finir là-dessus. C'est que justement, on a peut-être, mettons, je dirais pas de retard, mais on a peut-être. Le problème, c'est pas qu'on est en retard sur la nouvelle, c'est que souvent on est trop d'avance pense. Ouais. On dit de quoi, puis un an et demi, deux ans plus tard, l'actualité nous donne raison, mais personne ne s'excuse. Personne ne se souvient même qu'ils ont dit l'inverse il y a deux ans avant.
Ouais.
Ils nous donnent de crédit, puis ça passe dans le beurre. Puis c'est un peu frustrant pareil, parce que tu sais, on est tellement target, puis c'est pas pour vouloir nous flatter sur notre épaule plus qu'il faut, mais on est tellement target sur plein de trucs par rapport aux suspicions, puis hey, vous devriez faire attention à ça, puis ça c'est louche, puis oh non, c'est correct, c'est du bon monde, puis de ci, puis de ça, puis c'est...
En tout cas... Non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière, mais parce qu'ils sont mis en lumière par certaines personnes mal vues ou mal, pas bien positionnées ou pas dans la clique, ben ces informations-là sont ridiculisées. Puis un an, deux ans plus tard, comme tu dis, ben là, tout d'un coup, parce qu'elles sont mises en lumière par les bonnes personnes, par les personnes qui sont dans les bonnes grâces, de la bonne clique, du bon monde, ben là, ça, c'est correct, finalement, on finit par admettre, mais on retourne jamais en arrière pour dire aux autres, finalement... Mea culpa, on n'aurait peut-être pas dû vous ridiculiser à ce point-là. Comme l'utilisation du mot « liberté » aussi, qui est de plus en plus repris, je vois qu'il est repris, notamment par les différentes activités qui sont faites au Parti québécois. Là, je vois beaucoup le mot « liberté ». C'est drôle, dans le cadre du Parti québécois, l'utilisation de ce mot-là est respectable. Mais quand c'était utilisé par d'autres partis politiques, ben là, c'était moins respectable. Je trouve ça... c'est une géométrie à deux variables. C'est assez... préoccupant.
Oui, donc c'est ça, des péquistes qui parlent de liberté, c'est comme, c'est pas, mettons, des mots qui se mélangent pas, c'est comme, mettons, républicain gay, là, tu sais, c'est comme ça, on voit ça moins, on entend ça moins souvent, mais en tout cas, les rares fois que j'ai entendu parler de liberté, c'est majoritairement pour parler de la liberté de l'État à faire ce qu'il veut, et non pas des citoyens.
Non, mais moi, j'ai vu des activités du parti, là, où il y avait le mot liberté dans leur, dans leur publication.
Bon, si on commençait à entendre le discours, bonne affaire, là, je vais leur donner...
Oui, mais il y a la liberté d'un peuple collectif, puis il y a la liberté individuelle. Puis là, je me rends compte que c'est...
Une étape à la fois.
C'est ça.
Yes, sir. Merci, Jacinthe.
Bonne semaine.
À la prochaine. Yes, bye-bye.